Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Lecture dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 1 à 13. Il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le !» Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant entre eux. « Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts ?» Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Il leur répondit. « Élie vient d'abord et il rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu. » et qu'ils ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Une deuxième lecture dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, les versets 16 à 19. Ce n'est pas en effet en suivant des faibles fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Une troisième lecture, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 12 à 18. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, blanche comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Avez-vous déjà vu une chenille?
Une chenille peut-elle voler?
Il faut la jeter dans les airs, mais elle ne vole pas, la chenille.
Non, la chenille ne peut voler que lorsqu'elle est métamorphosée, c'est-à-dire qu'elle devient un papillon. Eh bien, notre compréhension pour saisir la Bible, si elle n'est pas métamorphosée par le Saint-Esprit, on ne peut pas voler quelque part dans la connaissance de la parole et être touché par ce que Dieu veut nous dire. Eh bien, nous comptons encore sur le Saint-Esprit aujourd'hui pour cette métamorphose dans notre vie. Comme chaque dernier dimanche du mois, nous ouvrons le journal de Pierre écrit par Marc. Nous arrivons aujourd'hui au 45e article. C'est plein de petits articles, hein, comme les journaux modernes, ils n'ont rien inventé avec plein de petits articles. Hein. Ben, l'évangile de Marc, c'est ça. On en est au 45e. Et cet article d'aujourd'hui est passionnant. Il a marqué Pierre à vie. C'est un de ces moments clés, comme vous en avez peut-être vécu déjà quelques-uns. Peut-être avez-vous vécu un miracle particulier, une délivrance, ou une découverte très marquante, ou une rencontre surprenante qui a laissé des traces. Le baptême est un moment marquant pour le chrétien, comme aussi la naissance d'un enfant, et bien d'autres choses. C'est vrai que nous ne vivons pas tous les jours des faits marquants. Par contre, certains faits marquants touchent profondément notre vie. Et le fait réellement vécu par Pierre qu'il nous rapporte aujourd'hui l'a marqué jusqu'à la fin de sa vie et lui a donné la force de traverser toutes ses épreuves. Le texte dans 2 Pierre que nous avons lu le démontre, nous y reviendrons tout à l'heure. Et c'est par quelques questions que j'aimerais aborder avec vous ce texte. Trois questions, très simples. La première question c'est, qu'est-ce que la transfiguration? Voilà, ça sera la première question à laquelle on va répondre. La deuxième question, qui était présent lors de ce moment fascinant? Qui était présent lors de ce moment fascinant? Et la troisième question, pourquoi la transfiguration a-t-elle eu lieu? Pourquoi? Pour quelle raison? Voilà les trois questions auxquelles nous allons répondre ce matin pour apprendre de ce texte des éléments qui nous seront utiles dans nos vies. Alors juste, j'aimerais commencer par situer l'événement dans son contexte. Jésus vient d'avoir une discussion avec ses disciples, une discussion vraiment très importante avec eux, une semaine avant. Nous en avons parlé il y a un mois. On doit un petit peu revenir dans ce contexte. Hein. Il a demandé à ses disciples de lui dire « Qui les autres disent-ils qu'il est ?» Ça vous dit quelque chose. Hein. Alors il leur a dit « Mais et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre a répondu qu'il était le Christ, ou Messie en hébreu ou moins en français. Et à ce moment-là, Jésus a fait quelque chose de très important. Quelque chose qu'il a commencé. Il a commencé quelque chose de nouveau à ce moment-là. C'est un point important pour comprendre la transfiguration. Il a commencé à parler de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection à ses disciples. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Et aussitôt, l'évangile de Marc a souvent dit « aussitôt, soudain, etc. » Aussitôt, Pierre fait des reproches à Jésus. C'est ce qui s'est passé il y a une semaine. Et Jésus le reprendra avec force en disant même « Arrière de moi, Satan !» Il explique à ses disciples que le suivre, c'est perdre sa vie. C'est ne pas avoir honte de lui devant les pécheurs. Ce discours de Jésus de renoncement à soi-même était difficile pour les disciples. Alors, il leur annonce que quelques-uns de ceux qui sont là verront le royaume de Dieu avant leur mort. Et 6 jours plus tard, cela se passe. C'est la transfiguration. Alors entrons dans notre premier point. Qu'est-ce que la transfiguration? Et je vous invite à reprendre quelques passages, enfin quelques versets de ce passage. Verset 1, commençons. Il leur dit encore, Jésus leur dit, il y a une semaine. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, est d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. » Au verset 7, nous lisons encore, « Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est un événement unique, unique. Jamais quelqu'un ne s'est métamorphosé de cette manière et ensuite est redevenu comme avant. Jamais. C'est vrai, Moïse a eu un visage qui reflétait la gloire de Dieu. Mais ce n'était qu'un reflet. Il n'était pas lui-même le rayonnement. Alors que Jésus rayonne, même ses habits sont éclatants. Et cette manifestation a tellement marqué Pierre qu'il en parlera jusqu'à la fin de sa vie. C'est le fondement de son espérance. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il dira, dans 2 Pierre 1, 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu l'honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. C'était là. C'était lors de la transfiguration. Alors le terme traduit par transfiguration, que l'on a dans l'original, est en fait la racine du mot métamorphose, que nous connaissons. Un changement d'un état à un autre comme d'une chenille à un papillon. Il y a une métamorphose. Et ici, on pourrait même dire que Dieu a enlevé un peu le voile de la gloire de Jésus-Christ. Il a enlevé le voile de la gloire de Jésus-Christ qu'il avait de toute éternité et maintenant sera lié à son humanité. Pierre, dans le journal écrit par Marc, indique que les habits même de Jésus l'ont complètement subjugué. Pierre, lui, se concentre sur les habits de Jésus. Les autres évangiles, ils en parlent aussi. Mais lui, il est subjugué. Il dit, mais il n'y a personne sur la terre qui pourrait laver des habits pour les rendre si blancs. Tellement ils étaient blancs, immaculés, purs. En fait, cela représentait la pureté de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Pierre dira aussi dans 1 Pierre, justement, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Jésus, qui est sans péché, peut entrer dans la présence de Dieu sans passer par la mort ou un sacrifice. Il peut. Et il aurait même pu y aller directement et voilà, c'était fini. Il peut. La transfiguration le prouve. Il est parfaitement pur. Jésus, qui est sans péché, peut entrer dans la présence de Dieu sans passer par la mort ou par un sacrifice. La transfiguration le prouve, il est parfaitement pur. Alors si l'annonce des souffrances de Jésus a pu faire douter les disciples de Jésus qu'il était le Messie, puisque Pierre a dit « tu es le Christ », puis ensuite il parle de ses souffrances, là, il dit « attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Messie c'est... ?» Eh bien, cet événement de la transfiguration a enlevé tout doute. Et Pierre le confirme dans son épître. Et c'est vrai qu'on a besoin parfois, et Pierre avait vraiment besoin de cela à ce moment-là. Imaginez un roi qui vive comme un serveur dans un petit hôtel dans lequel vous allez régulièrement. Vous le connaissez, vous êtes devenus des amis, et un jour il vous dit qu'il est roi. Ben, vous ne savez pas vraiment si vous pouvez le croire. Il est sympa, il a pas l'air de dire des mensonges, mais bon, moi je l'ai vu en tant que serveur. Et voilà qu'un jour, vous êtes invité dans un palais, et qu'en face de vous, habillé de ses plus beaux habits, vous reconnaissez le serveur qui parle avec les présidents de tous les pays du monde. Eh bien, vous voilà convaincu, il est vraiment roi. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Est-il un personnage d'un livre? Est-il un homme sympathique que les chrétiens aiment? Croyez-vous ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu? Est-ce que ce Dieu glorieux, devant qui l'on est saisi d'effroi et d'une crainte respectueuse, est celui à qui vous pensez lorsque vous pensez à Jésus-Christ? Jésus-Christ est-il celui qui est décrit dans le premier chapitre d'Apocalypse que nous avons lu en introduction pour vous? Ben, c'était de Jésus qu'il était question dans l'Apocalypse, tel qu'il est maintenant. Si nous y croyons, qu'est-ce que cela change dans notre manière de vivre? Qu'est-ce que cela change dans notre manière de vivre? Lors de sa transfiguration, Jésus n'était pas seul. Il a été rejoint par trois autres personnes. Et c'est ce que nous allons voir dans notre deuxième point. Qui était présent lors de ce moment fascinant? Je reviens au verset 2, où il est dit, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. et il les conduisit seul à l'écart sur la haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, tels qu'une d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus, seul avec eux. Qui était présent lors de ce moment fascinant? Eh bien, premièrement, il y avait trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, qui avaient déjà eu le privilège de voir la résurrection de la fille de Jaïrus. C'étaient les trois seuls qui étaient avec Jésus lors de cette résurrection. Ils seront aussi les trois les plus proches de Jésus lorsqu'il agonisera au jardin de Gethsémané. Il y en a trois, parce qu'il en fallait au moins deux ou trois témoins pour qu'une chose soit jugée comme certaine selon l'Ancien Testament. Les trois disciples voient tout à coup trois amis qui se connaissent. Moïse, Élie et Jésus. Et oui, Jésus connaissait Moïse. En fait, il dira plus tard aux pharisiens, dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Abraham, c'est moins 2000. Moïse, c'est moins 1500. Okay? Puis après, Élie, c'est... Bon, on a David, moins 1000, et puis Zorobabel, moins 500, c'est entre deux, là. Hein, comme ça, on a les points de repère historiques. Moïse et Élie connaissaient Jésus. Jésus les connaissait. Moïse et Élie ont des points communs. Ce sont deux personnes qui ont jeûné pendant 40 jours. Moïse et Élie sont deux personnes qui ont jeûné pendant 40 jours. Ils ont tous les deux accompli des miracles. Tous les deux ont accompli des miracles. Tous les deux ont parlé à Dieu au mont Sinaï, qui est aussi appelé le mont Horeb. Tous les deux ont parlé à Dieu au mont Sinaï, qui est aussi appelé le mont Horeb. Et Dieu leur a à tous les deux manifesté sa gloire. Leur mort est aussi pour les deux particulière. Moïse est mort en présence de Dieu qui s'est occupé de sa tombe. Et Élie s'en est allé au ciel dans un char de feu. Plusieurs éléments en commun. Mais pourquoi les trouvons-nous ici avec Jésus? Pourquoi? Eh bien, une première raison à laquelle j'ai toujours cru, jusqu'à ce que je travaille ce texte pour cette prédication, que je crois encore, rassurez-vous, c'est que Moïse représente la loi et Élie les prophètes, ce qui inclut en fait tout l'Ancien Testament dans l'expression « la loi et les prophètes ». Et je pense que cette raison est valable et qu'elle donne du sens à cette discussion particulière que Jésus a avec Moïse et Élie à propos de son exode qu'il allait vivre à Jérusalem. Or, Marc ne parle pas du contenu de cette discussion, alors que Luc nous en parle dans Luc 9, 31. Voilà pourquoi je peux vous dire que Jésus parlait avec Élie et Moïse de son exode. C'est le même terme qu'il a utilisé. Mais une deuxième raison que j'ai découvert, qui me semble maintenant être la principale raison pourquoi on voit Moïse et Élie, est liée au texte de Malachie 3, 22 à 24. Les trois derniers versets de l'Ancien Testament, en fait. Il est dit ceci. « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et l'Ancien Testament se termine. Moïse est le premier prophète, le fondateur, celui à qui Dieu a donné la loi sur laquelle tous les autres prophètes se sont appuyés. Voilà la raison de sa présence. C'est le premier prophète, le fondateur, celui à qui Dieu a donné la loi sur laquelle tous les autres prophètes se sont appuyés. Et selon ce texte de Malachie, Élie sera le dernier prophète envoyé par Dieu avant le jour de l'Éternel. Élie sera le dernier, vous avez le premier et le dernier annoncé par Dieu avant le jour de l'Éternel, un prophète qui ramènera le peuple de Dieu, comme il l'a fait, par exemple, au mont Carmel, où il a fait revenir le peuple à l'Éternel. Alors, comme Jésus l'expliquera à ses disciples, c'est Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Pierre, comme Jacques et Jean, sont saisis d'effroi devant cette manifestation glorieuse. Comme le peuple au Sinaï était terrorisé par la puissance de Dieu qui se manifestait. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il est terrorisé ou qu'il sait pas quoi faire? Il parle! Pierre, il parle. Il doit agir, il est impulsif. Alors, est-ce que ce que Pierre a dit est sensé ou non?
Ça, c'est pas une question facile à répondre.
Parle-t-il des tabernacles, parce que c'est le mot utilisé, en lien avec la fête des tabernacles, en lien avec le Sinaï, en lien avec le voile que Moïse mettait sur lui, donc il faut mettre un voile sur cette gloire, ou en lien avec son désir de les garder près de lui, ou de s'en protéger parce qu'il sent qu'il est pécheur? Le texte ne nous le dit pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il ne savait pas quoi dire.
Ça, c'est écrit dans le texte.
Il ne savait que dire. Et dans ces moments-là, et surtout dans une manifestation de Dieu, il vaut mieux ne rien dire. Ou de parler quand on nous le demande. Mais il vaut mieux ne rien dire. Mais dès que Pierre a parlé, une chose extraordinaire est arrivée. Une chose qui n'était plus arrivée depuis la construction du temple. Une chose qui était arrivée lorsque le tabernacle avait été terminé, la nuée qui était entrée dans ce tabernacle, la nuée qui était entrée dans le temple, cette nuée que Ésaïe et Ézéchiel ont vue en vision, la nuée qui enlèvera Jésus des yeux de ses disciples lors de l'ascension, la nuée qui sera présente lorsque Jésus se manifestera dans sa parousie. Cette nuée est là. Pierre, Jacques et Jean sont dans cette nuée. Et là, une voix se fait entendre. Une voix que Jean a déjà entendue. Et oui, parce que Jean, il était là au moment du baptême de Jésus. Pourquoi j'ose affirmer cela? C'est parce que c'est très vraisemblable, puisque Jean était un disciple de Jean-Baptiste. Donc il était présent lorsque Jésus a été baptisé. Et le début des paroles que nous lisons ici dans Marc sont exactement les mêmes. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. »« Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Une parole qui atteste que Jésus vient de Dieu. Il n'est pas venu par lui-même. Il vient de Dieu. Qu'il est le fils de Dieu, qu'il est bien-aimé. Ce n'est pas l'un des fils de Dieu, mais « mon fils bien-aimé », dit la voix. Et voici que la voix précise une chose qu'elle n'avait pas dite lors du baptême. « Écoutez-le. »
Rappelez, il y a une semaine, Pierre, il a fait des reproches à Jésus pour tout ce qu'il disait, etc.
« Écoutez-le. » Une parole qui donne la pleine autorité à tout ce que Jésus dit. Lors de cette transfiguration, il y a 3 disciples témoins. Et il y a 3 personnes qui témoignent de la gloire de Jésus. Moïse avait annoncé un prophète qu'il fallait écouter. Dans Deutéronome 18:15, il dit ceci, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Élie annonce la venue du jour de l'Éternel. Et Dieu, c'est le 3e témoin, confirme que Jésus est son fils et qu'il faut l'écouter. Dieu confirme que Jésus est son fils et qu'il faut l'écouter. Donc cette notion de témoignage est importante et on le vit aussi. Si une personne vient vous dire qu'elle a entendu parler d'un homme qui a fait un exploit au Brenet, alors peut-être que vous allez le croire. Bon, c'est peut-être pas très solide, vous savez pas trop ce que ça signifie. Mais si par contre 3 personnes viennent vous dire qu'ils ont parlé au père de Olivier Favre, alors c'est pas l'ancien pasteur qui était ici, hein, c'est un autre, Olivier Favre, qu'il a parlé à Claude Durig, fondateur de la compagnie de navigation du lac des Brenets, qui a vu les exploits du plongeur qui était présent lors de son saut de 53,9 mètres le 30 août 1987 au Brenet, et que Annabelle Donzé, qui a plongé pendant 2 ans pour les spectacles du Recordman, lorsque ces 3 témoins vous parlent, mais il n'y a plus de doute sur l'existence de cette personne et de son exploit. Pierre, Jacques et Jean ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Et ils ont témoigné que 3 personnes leur ont parlé clairement de la gloire de Christ. Croyons-nous ce qu'ils disent? Et nous arrivons à la dernière question qui me passionne le plus, parce que je vais vous transmettre des choses que j'avais pas pensé jusqu'à ce que je prépare tout cela. Donc je me réjouis de vous en parler. La dernière question, c'est pourquoi la transfiguration a-t-elle eu lieu? Pourquoi? Bon, on va lire déjà à partir du verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en disant entre eux, « Mais qu'est-ce que ressuscité d'entre les morts ?» Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Et il leur répondit, « Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. » Les disciples descendent de la montagne. Alors, ceux qui ont déjà fait un peu de randonnée se rendent compte que la randonnée est un bon terrain de réflexion. On peut réfléchir en marchant. Et les disciples ont du temps pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous allons aussi réfléchir à la raison de cet événement si spectaculaire et unique. Alors jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que cette transfiguration n'avait été faite que pour les disciples et nous qui le lisons. Mais j'ai découvert que cette transfiguration a été faite d'abord et surtout pour Jésus lui-même. Voici donc les raisons pour Jésus, et nous terminerons avec les raisons pour les disciples et pour nous, évidemment. Jésus vient de partager pour la première fois à ses disciples qu'il allait devoir beaucoup souffrir, qu'il serait rejeté, mis à mort et ressuscité 3 jours après. La réaction de Pierre, qui était semblable à celle des autres disciples, c'est un porte-parole Pierre, nous a montré que Jésus ne reçut aucun soutien ni aucun réconfort de ses disciples qui ne voulaient que voir la gloire en fait. Jésus ne pouvait pas parler de son épreuve sans être mal compris. Il devait porter ce fardeau tout seul. Mais avec Moïse et Élie, Jésus a pu parler de son exode. Il a été entendu, compris, encouragé, car il connaissait comme lui les prophéties de l'Ancien Testament du serviteur souffrant. Jésus avait besoin de compréhension et de liberté pour parler de sa mission, ce qu'il a reçu lors de la transfiguration. C'est une première raison. Jésus avait besoin de compréhension et de liberté pour parler de sa mission, ce qu'il a reçu lors de la transfiguration. Alors Jésus était Dieu, d'accord, mais Jésus était aussi homme. Et son humanité n'a commencé qu'au moment où il est sorti du sein de Marie. Son humanité n'a jamais connu la gloire que sa divinité a connue de toute éternité. Ce temps de transfiguration a permis à sa nature humaine de goûter à la gloire passée et venir, et à venir après les souffrances qu'il allait subir. Jésus, dans son humanité, avait besoin de goûter à la gloire qui l'attendait pour passer l'épreuve de la douleur extrême qu'il allait subir pour nous. Voilà une deuxième raison. Jésus avait besoin dans son humanité de goûter à la gloire qu'il attendait pour passer l'épreuve et la douleur extrême qu'il allait subir pour nous. Jésus, en commençant à partager à ses disciples ce qu'il attendait, manifestait d'ailleurs son acceptation de la mission qui lui a été confiée. Parce que quand Jésus dit quelque chose, il va l'accomplir. Donc s'il commence à dire à ses disciples qu'il allait souffrir et mourir, etc., c'est qu'il allait effectivement, qu'il avait accepté sa mission. Et pour la deuxième fois après le baptême, où il a commencé son ministère, Dieu parle pour manifester son affection, son amour, son attachement à Jésus. C'est comme si le Père faisait un grand hug au Fils. C'est tellement important d'encourager, de manifester son amour. Comme s'il le prenait dans ses bras. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quel bienfait pour Jésus qui était résolu à vivre sa mission. Jésus avait besoin d'être encouragé et Dieu l'a fait en disant son amour pour lui. Les raisons qui ont poussé Dieu à faire cette transfiguration pour Jésus font aussi écho à nos besoins. Le besoin de compréhension, de ne pas se sentir seul, d'être libre de parler de nos épreuves. Et là, j'ai une nouvelle extraordinaire, c'est que Jésus sera toujours notre meilleur interlocuteur qui comprend et sera avec nous. Non, il ne va pas nous envoyer Élie et Moïse, parce que lui-même est là avec nous. Cela nous fait penser aussi au besoin de connaître notre destinée, le résultat de toutes les souffrances pour mieux les supporter et aller de l'avant. Si l'apôtre Paul peut dire que les souffrances présentes sont bien peu de choses par rapport à la gloire à venir,
c'est parce qu'il l'a vu.
La parole de Dieu sera toujours notre meilleur guide et nous indique notre destinée. Et troisièmement, le besoin d'être encouragé, d'être aimé. Dieu le fera toujours parfaitement et nous sommes appelés à être ses agents. En fait, lorsqu'un père prend son fils dans ses bras pour lui dire « c'est continue, même si c'est difficile, je suis avec toi », c'est un agent de Dieu, en fait, qui manifeste son amour. Un frère, une sœur, un pasteur, un ancien, un frère, une sœur dans la foi, ce sont des agents de Dieu pour manifester cet amour et encourager. Mais je vous l'ai dit, la transfiguration aussi des raisons qui concernent les disciples et nous. Les disciples, en contemplant la gloire de Christ, sont rassurés. C'est vraiment lui le Messie promis, le Fils bien-aimé de Dieu. Jésus est vraiment celui qu'il dit être. Ils sont rassurés. C'est vraiment lui le Messie promis. Vous vous souvenez, Pierre avait dit « c'est toi le Christ ». Ensuite, Jésus appelle à la souffrance, il a dit « loin de moi Satan ». Ça devait être un peu perturbant. Cette transfiguration enlève toute perturbation de ce genre. Il est vraiment ce Messie promis. Ensuite, deuxième élément, les disciples comprennent les liens avec l'Ancien Testament. Ils comprennent les liens avec l'Ancien Testament. En demandant à Jésus pourquoi Élie doit venir, Jésus dit qu'il est déjà venu. Et Matthieu nous indique qu'ils ont compris que c'était Jean-Baptiste. Celui qui crie dans le désert, qui prépare le chemin, celui qui vient avant le jour de l'Éternel, ce jour qui s'est accompli à la croix. Quand on a parlé des prophètes, des 12 prophètes, on a parlé du jour de l'Éternel. Et on s'est rendu compte que à la croix, c'est le jour de jugement, le jour de l'Éternel qui s'est accompli à la croix et qui sera pleinement manifesté à l'avènement de Jésus-Christ. Ils comprennent que Moïse avait annoncé le prophète qu'il fallait écouter. Ils comprennent que l'Ancien Testament annonçait les souffrances de Jésus, comme par exemple dans Ésaïe 53. Une autre chose encore, les disciples, devant 3 témoins, sont encouragés à valoriser Jésus et le croire sur parole. Ils sont encouragés à valoriser Jésus et le croire sur parole. Ce Jésus si brillant, qu'ils ne pouvaient quasiment pas le voir, c'est celui qu'ils doivent valoriser. Les disciples reçoivent un ordre qui devrait résonner jusqu'au plus profond de nos cœurs, nos sentiments, notre intelligence et notre volonté. Un ordre que nous devons nous souvenir. Écoutez-le. Dieu a parlé à ses disciples qui sont des témoins qui nous le transmettent. Écoutez-le. Ces raisons de la transfiguration qui concernent les disciples devraient nous accompagner. Nous sommes rassurés de savoir que Jésus est ce qu'il proclame être. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la vérité. Nous pouvons être rassurés. Nous pouvons être conscients que tout l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus-Christ qui a tout accompli pour notre salut et notre purification. Face aux témoins, valorisons Jésus-Christ en parlant en bien de lui. Et une bonne chose, c'est parlons déjà en bien de lui dans un contexte où on est tous d'accord, pour qu'ensuite on puisse parler en bien de lui dans des contextes où c'est moins facile. Et dernier élément, écoutons les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles, qui sont en fait derrière aussi tout le Nouveau Testament. Jésus a dit qu'il enverrait son esprit pour rappeler tout ce qu'il avait dit. Tout le Nouveau Testament, c'est Christ qui nous le donne en fait. Eh bien, soyons des personnes à l'écoute de ce Seigneur. En conclusion, nous pourrions dire que ça aurait été trop bien d'être avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, non? Franchement, de voir Jésus métamorphosé, waouh! Mais ça a duré un temps très limité, vraiment très limité. Celui qui se repent de ses péchés parce qu'il se rend compte que devant la pureté de Dieu, il n'est pas acceptable. Celui qui croit que Jésus a vécu l'exode pour nous tirer de l'esclavage du péché, qu'il a tout accompli. Celui qui vit cela verra Jésus-Christ dans sa gloire, non seulement pour un temps limité, mais pour l'éternité. Alors la question qui nous reste, c'est accompagneras-tu Jésus dans sa gloire? Où verras-tu sa gloire lors de son retour pour être jugé et maudit pour l'éternité? La voix qui vient de cette Shekinah, de cette nuée, disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » Le feras-tu? Le ferons-nous? Nous allons prier.
Éternel, ta parole nous rapporte des événements grandioses. Seigneur, nous pouvons, lorsque nous sortons, regarder le soleil pour nous exercer à voir quelque chose de brillant, de lumineux. Nous n'y arrivons pas parce que nos yeux ne sont pas faits pour le voir en face. Et pourtant, Jésus a brillé bien plus que le soleil devant ses disciples. Seigneur, j'aimerais te prier que nous puissions saisir, comprendre, vivre cette compréhension de Christ qui brille plus que tout ce qu'on peut imaginer. Et que cela soit le cas dans notre cœur, que ce soit notre étoile du matin, que ce soit, Seigneur, le soleil de nos journées, que ce soit celui qui nous guide, qui nous garde, qui nous réchauffe, qui nous fortifie. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que comme les disciples qui ont été rassurés, qui, comme Pierre, jusqu'à la fin de sa vie, se souvenaient de cette situation si marquante, eh bien, nous puissions aussi être marqués par ta parole, par ce que nous entendons, par ce témoignage, parce que nous pouvons le vivre en différé, parce que nous pouvons le comprendre, parce qu'avec toute ta parole, avec le Nouveau Testament complet, nous pouvons comprendre des choses que les disciples n'avaient pas encore compris. Oh, permets, Seigneur, que nous puissions être saisis par cette grâce de la transfiguration. Merci parce que nous comprenons aussi que Christ a été encouragé par tout cela. Tu es un Dieu qui prend soin de ton Fils, et quand tu dis que tu l'aimes, eh bien tu agis en conséquence. Et si tu l'as fait pour lui, tu le feras aussi pour nous, parce que tu nous adoptes en lui. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir tourner nos regards vers ce Dieu glorieux, qui certes nous annonce les souffrances, qui certes nous dit qu'il y aura la mort, mais qui nous annonce aussi la gloire. Et nous te remercions parce que Jésus-Christ a accepté la souffrance, l'amour, avant la gloire. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de le voir aussi de cette manière, dans nos vies, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.